SBS Radio.
Les principaux titres de ce dimanche 6 octobre. En Australie, ça chauffe pour les banques après les révélations il y a quelques mois de la Commission royale sur les fraudes pratiquées par les plus grandes banques australiennes. Les travaillistes estiment qu'elles n'ont pas tiré les leçons de ce scandale et demandent donc la création d'une nouvelle commission d'enquête. Aux États-Unis, la pression est de plus en plus forte sur Donald Trump, qui est sous le coup d'une procédure de destitution. Hier, c'est son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui est monté au front pour le défendre, tout en reconnaissant que Donald Trump avait bel et bien téléphoné au président ukrainien. Et en France, appel à la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, accusé d'incompétence après l'attaque perpétrée à la préfecture de police de Paris et qui a causé la mort de 4 policiers jeudi dernier. Et on ouvre donc ce journal en Australie où le parti travailliste réclame la mise en place d'une nouvelle commission d'enquête sur les banques. Ils appellent ainsi le gouvernement fédéral à autoriser l'autorité de la concurrence australienne à enquêter sur les pratiques de ces 4 grandes banques qui visent à empêcher de nouveaux acteurs à entrer sur le marché bancaire australien. Ils dénoncent également leur refus d'appliquer à leurs clients la baisse des taux d'intérêt qui a été décidée cette semaine par la Banque centrale. Bref, une situation d'oligopole où les 4 grandes banques font à peu près ce qu'elles veulent. Et c'est une situation que dénonce Jim Chalmers, il est le porte-parole de l'opposition sur la question des finances. Il a expliqué sur Sky News qu'il faut plus de concurrence dans le secteur bancaire australien.
I think it's bizarre, but unfortunately not especially surprising from this government that Josh Frydenberg has so far refused to sign off on that, once again running a protection racket for the big four banks.
En Australie, le couple de blogueurs australiens qui étaient détenus depuis des mois pour avoir fait voler un drone au-dessus d'une zone militaire ont été libérés. Ils viennent de rentrer en Australie. Mark Firkin et Jolie King, qui sont tous les deux originaires de Perth, étaient accusés d'espionnage par le régime iranien. Ils ont finalement été libérés, tandis qu'en Australie, le ministère de la Justice a accepté qu'un cancérologue iranien, Reza Debashi Kivi, soit lui pas extradé vers les États-Unis où il est accusé d'avoir enfreint les sanctions américaines visant Téhéran. Et par ailleurs, une troisième Australienne reste détenue en Iran en vertu des mêmes accusations d'espionnage. Il s'agit de l'universitaire Kali Moore Gilbert. Direction maintenant la Nouvelle-Zélande, puisqu'après la condamnation du cardinal Pell, c'est cette fois sur l'île qui est occupée par nos voisins qu'un nouveau scandale sexuel éclabousse l'Église catholique. Le pape François vient d'accepter la démission d'un évêque néo-zélandais qui, selon d'autres membres de l'Église, aurait eu un comportement complètement inacceptable avec une jeune femme. La jeune femme en question a porté plainte, une enquête indépendante est en cours et c'est dans ces conditions que Charles Drennan, qui officie à Palmerston North, a démissionné. Il aurait également présenté ses excuses au pape en personne, d'après le cardinal John Dew, qui est le chef de l'Église catholique en Nouvelle-Zélande.
When the bishop was confronted with the allegation, he did admit inappropriate sexual behaviour. The young woman does not want us to go into any details about that for the sake of her own privacy, but he did admit that it was wrong, that it was that sort of behaviour should never happen in the church. He, in his letter of resignation, he apologised to the Holy Father for that.
3 millions de dollars, c'est la somme que le gouvernement australien va débloquer pour enquêter sur les effets du cannabis médical à l'égard des patients atteints de cancer. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, explique que le gouvernement veut rassembler des données pour attester des effets positifs ou non du cannabis à usage médical, alors que plus de 11 000 Australiens ont désormais accès à ce type de traitement. Aux États-Unis, nouveau rebondissement dans le cadre de la procédure de destitution qui vise le président Donald Trump. Cette fois, il vient de son propre secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui, tout en prenant sa défense, a reconnu que ce fameux coup de fil au président ukrainien a bel et bien eu lieu et sous ses yeux. On écoute un extrait de son intervention traduite en français par nos confrères de Radio France Internationale.
Le département d'État a envoyé une lettre au Congrès, ce qui constitue notre première réponse à cette demande de documents. Nous ferons évidemment tout ce qui est requis par la loi. Mais malheureusement, des personnes chargées de l'enquête parlementaire ont harcelé et fait pression sur des employés du département d'État. On les contactait directement en cherchant à obtenir des documents qui appartiennent au département d'État, qui sont des documents officiels du gouvernement américain, et en leur demandant de le faire sans rien dire, en disant « Eh, ne prenez pas la peine d'appeler les avocats du département d'État. Parlez-nous directement. C'est du harcèlement et je ne laisserai jamais cela arriver à mon équipe. Donc nous allons effectuer toutes ces démarches. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais au Congrès et que nous voulions obtenir des documents. Je me souviens exactement du temps qu'il a fallu pour que ces documents nous parviennent. Eh bien nous allons aller plus vite. Nous allons être plus réactifs que l'administration Obama ne l'a été les années passées. »
Allez, on va quitter Washington pour se rendre maintenant quelques milliers de kilomètres plus au sud, en Équateur. Là-bas, la colère gronde au sein de la population alors que le président a décidé, pour redresser les comptes de l'État, de lancer une réforme fiscale qui se traduit entre autres par un doublement des prix du carburant. Mais c'est là, d'après le président Moreno, le prix à payer pour sortir le pays de la crise. On fait le point avec Altine Lazage de RFI.
L'Équateur est confronté à un ralentissement économique et à un endettement galopant. Son point faible, l'économie est très dépendante du pétrole qui représente environ 40% des recettes de l'État. La chute des cours de l'or noir en 2014 ont donc mis en difficulté les finances du pays, l'obligeant à recourir davantage à l'endettement extérieur. Par conséquent, la dette publique ne cesse d'augmenter, d'où la décision du président Moreno de redresser les finances publiques, quitte à prendre des mesures impopulaires. Il a donc mis fin cette semaine aux subventions sur les carburants, des mesures qui ont automatiquement augmenté les tarifs à la pompe et qui ont provoqué la grogne populaire. Une situation économique paradoxale pour un pays qui a un sous-sol très riche en minerais, en pétrole et en gaz. L'Équateur profite aussi d'une diversité climatique qui permet de nombreuses cultures et de richesses marines. Il est notamment le premier exportateur de crevettes d'Amérique.
Et en Inde, ce n'est pas le prix de l'essence qui suscite la colère populaire, mais le souhait du gouvernement d'abattre plus de 2000 arbres pour construire une ligne de métro à Bombay. Une manifestation a rassemblé des milliers de personnes ce vendredi. On écoute le récit de Caroline Dietrich pour RFI.
L'abattage a débuté dans la nuit de vendredi. Des centaines de personnes se sont alors réunies pour tenter d'empêcher les autorités de couper plus de 2000 arbres dans le quartier d'Arrêt, cet immense espace vert considéré comme l'un des poumons de la capitale économique indienne. Les images des arbres s'écroulant se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux, provoquant l'indignation. Quelques heures plus tôt, dans la journée de vendredi, la haute cour de Bombay avait rejeté tous les recours s'opposant à l'abattage de ces arbres. Les opposants veulent à tout prix empêcher les autorités de couper les arbres, car tous les recours légaux n'ont pas encore été épuisés, estiment-ils. Les autorités veulent construire ici un entrepôt dans le cadre d'une nouvelle ligne de métro dont l'objectif est de désengorger la mégalopole indienne. Les environnementalistes, mais aussi les habitants, demandent à ce que cet entrepôt soit installé ailleurs pour protéger les espaces verts de la ville. Les manifestants estiment que des centaines d'arbres ont déjà été abattus. La police a quant à elle interdit les rassemblements de plus de 4 personnes autour de la zone concernée et a déjà procédé à plusieurs arrestations. Sur Twitter, les stars de Bollywood, des personnalités politiques et du monde des affaires ont aussi rallié la cause. Carole Dietrich, New Delhi, RFI.
Allez, on fait maintenant un détour par Hong Kong où de nouveaux heurts ont opposé samedi la police et des manifestants pro-démocratie. Parmi eux, certains ont déposé un recours en justice pour contester l'état d'urgence qui a été décrété par le gouvernement et qui interdit, entre autres, aux manifestants de se masquer le visage. Dennis Kwok et 23 autres parlementaires s'opposent également à cette mesure qu'ils considèrent anticonstitutionnelle.
Now this is a Henry VIII situation. This is basically I say what is law, I say what applies, and I say when that ceases to be law. And that is not how our constitution works, and that is not the separation of power, which is a very important principle, constitutional principle under the basic law and in the common law.
Et en France, trois jours après l'attaque qui a fait 4 morts à la préfecture de police de Paris, la piste terroriste est désormais privilégiée. Les premiers éléments de l'enquête laissent apparaître que l'auteur de cette attaque, qui travaillait lui-même à la préfecture, s'était radicalisé ces derniers mois. Et le problème pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, c'est que lorsqu'est survenue cette attaque, il n'avait pas l'air d'être du tout au courant. Le Premier ministre Édouard Philippe lui renouvelle sa confiance dans une interview à apparaître aujourd'hui dans le journal du dimanche. Mais dans l'opposition, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Déjà très critiqué pour sa gestion de la crise des Gilets jaunes, Christophe Castaner doit démissionner d'après le député Guillaume Larrivé du parti Les Républicains.
Est-ce que Christophe Castaner a choisi de dissimuler la vérité ou fait-il preuve une nouvelle fois d'incompétence? Eh bien, je le dis comme député, je le dis comme co-rapporteur de la loi sur le renseignement. J'appelle aujourd'hui Christophe Castaner à cesser ses fonctions. Je considère qu'il n'est pas capable d'assurer sa mission au service de la sécurité des Français. Je le dis avec beaucoup de gravité, il en va aujourd'hui de la sécurité nationale.
Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à avancer votre montre d'une heure, puisque les Nouvelles-Galles du Sud, le Victoria, la Tasmanie, Canberra et l'Australie méridionale viennent de passer à l'heure d'été. Alors bien sûr, aujourd'hui, la grasse matinée a été raccourcie d'une heure, mais l'aspect positif de ce changement d'heure, c'est que désormais, il va faire jour une heure de plus le soir. Enfin, gardez bien à l'esprit que le décalage horaire avec Perth et l'Australie occidentale est désormais de 3 heures et que l'écart est de 9 heures avec la France et le reste de l'Europe occidentale. Et pour finir ce bulletin, on fait un petit point sur la météo. Des nuages à Perth avec 21 degrés, des averses à Adélaïde où il fait 19 degrés, quelques bourrasques mais du soleil à Melbourne où le thermomètre atteint 27 degrés, 23 degrés à Sydney qui est sous la grisaille, temps nuageux aussi à Brisbane avec 27 degrés et en revanche grand soleil à Cairns où il fait 30 degrés et le thermomètre monte même jusqu'à 34 degrés à Darwin où le ciel est tout bleu.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.